D'où l'importance d'étudier une bonne fois, comme je l'ai fait, comme où il y a un livre que je souhaiterais voir dans toutes les ventes. J'aurais dû dire ça hier là, un responsable de Siloé. Un livre de Vittorio Messori, thèse sur Jésus, les éditions MAM. Vittorio Messori, c'est un journaliste italien, anticlérical, qui un jour s'est mis à lire l'Évangile en lisant de près l'Évangile, en ratissant tout ce qu'il a trouvé sur l'histoire des Évangiles, il est arrivé à la conclusion que ça tenait la route. Il a fait un livre qui a été traduit en 27 langues, mais qui malheureusement est trop peu connu en France. Hypothèse sur Jésus. Très bien fait. Où il montre ce que j'ai toujours essayé d'enseigner à mes élèves, que si les apparitions du Christ n'étaient pas vraies, ça aurait été raconté autrement. Et c'est important de montrer à ceux qui veulent chercher un peu que ça tient la route du point de vue historique. Que c'est solide. Moi, quand j'avais 16-17 ans, que je voulais rentrer au séminaire, j'ai beaucoup étudié cette histoire-là. Je ne voulais pas donner ma vie à un Jésus qui n'existe pas. Donc on est obligé de passer par l'histoire. Parce que Dieu s'est fait historique sous Ponce Pilate. Le Verbe s'est fait chair dans l'histoire. Donc si vous voulez rejoindre Jésus, il faut faire un petit peu d'histoire, même si vous n'êtes pas historien. C'est le paradoxe chrétien. C'est ce qui est tellement refusé aujourd'hui. On veut avoir sa révélation directe de Dieu sans passer par l'histoire. Alors qu'est-ce qui me montre que ça tient la route? Mais d'abord, l'essentiel, ça tient très peu de place dans l'Évangile, les apparitions du Christ ressuscité. C'est l'essentiel. On n'a pas vu grand-chose, on ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas des journalistes de magazines à sensation, moins on sait, plus on brode. Non, on ne sait pas grand-chose. Les invraisemblances des apparitions. Jésus qui apparaît en premier lieu à une bonne femme, à Marie-Madeleine. Alors qu'à l'époque, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur au tribunal. Racontard de bonne femme. Alors nous y voyons aussi une délicatesse de Jésus envers cette femme qui avait le diable au corps puisque Jésus l'avait guéri de 7 démons. Et ça nous rappelle à quel point la sainteté est compatible avec une vie de patachon. Comme dit Pierre-Emmanuel, Jésus pour naître choisit Marie pleine de grâce. C'est Marie pleine de péché qu'il choisit pour ressusciter. Mais nous y voyons aussi en tant qu'historien le signe de la véracité des apôtres. S'ils avaient voulu faire de la réclame pour Jésus, ils n'auraient pas montré une apparition à une bonne femme au matin de Pâques. Silence total sur leur hache. Pas un mot de la façon dont Jésus est sorti du tombeau. Sur le moment, on n'était pas là, on n'a rien vu. Intéressant. D'ailleurs, quelque temps après, les évangiles apocryphes ne se sont pas résignés à ce silence et ils ont imaginé Jésus sortant du tombeau entouré de deux anges. La tête des anges allait jusqu'aux nuages et la tête du Christ dépassait les nuages. Ça, au moins, c'est du spectacle. Un passage d'évangile que je trouve délicieux. La dernière page de tout le Nouveau Testament. Tous les exégètes sont d'accord pour dire que le dernier chapitre de Saint Jean a été fait bien après la mort de l'apôtre pour expliquer qu'il ne fallait pas se scandaliser, que Jésus n'était pas encore revenu dans sa gloire, alors que courait le bobard dans les premiers chrétiens que Jésus avait dit que Jean ne mourrait pas avant le retour glorieux du Christ. Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » La Pentecôte n'a pas encore soufflé, justement, il n'a pas encore réalisé qu'il devait annoncer la bonne nouvelle de par le monde. Il sait que Jésus est ressuscité, mais il faut gagner sa croûte. Il est retourné à son ancien métier. C'est pas parce qu'il est pape que les autres lui obéissent, mais je savais que Pierre devait être la grande gueule du groupe, c'est pour ça que Jésus l'a choisi pour être le chef. Non mais c'est toujours lui qui prend la parole, enfin, un peu m'as-tu vu quoi, un tempérament de chef, le syndicaliste, vous voyez, Jésus a la psychologie, il prend pas le plus mystique, Saint Jean, il prend celui qui a une âme de chef. On y va avec toi. Bon, ils sortirent, montèrent dans la barque, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le lac de Tibériade est un lac poissonneux, mais on tombe ou non sur un banc de poissons. Donc, ils reviennent bredouilles le lendemain matin. Le matin venu, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Les enfants, vous n'avez pas de poisson. Il n'y avait pas de micro, hein. Bon. Les apôtres pensent que c'est quelqu'un qui cherche du poisson frais et pas cher, comme dans tous les ports du monde. Au petit matin, on vient voir s'il n'y a pas des marins qui ont quelque chose à vendre. Non. Et il voudrait bien répondre, oui, mais il n'y a rien dans la barque, hein. Jetez le filet à droite, vous trouverez. Oh, c'est pas un amateur de poissons, c'est un pêcheur, il a peut-être un bon truc à nous donner. Qu'est-ce que t'en penses, qu'il dit Pierre aux autres? On y va? On y va. Et on remet ça en route, ça prend au moins un quart d'heure, on repart dans les profondeurs du lac et on jette les filets. Il leur dit, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et j'imagine mon patron Saint-Pierre. Allez les gars, oh oui, c'est ça, vient tout le poisson qui arrive dans la... Oh, il nous a donné un bon truc le gars, oh c'est génial. Il ne pense pas une seconde que ça peut être Jésus. Et puis tout à coup, Saint-Jean, beaucoup plus fut-fut, s'approche de Pierre et lui dit, hé, c'est le Seigneur ça. Ça lui rappelle tellement la première pêche miraculeuse qu'il a décidé à suivre Jésus pour de bon. Alors là, pour comprendre la suite du récit, mesdames, j'espère que vous ne serez pas choqués, mais il faut savoir qu'à l'époque, les slips de bain n'existaient pas. Pas plus que les cirés. Donc quand on se trouvait entre hommes sur le bateau, on enlevait tout, on était tout nu. Gymnos, en grec, qui a donné gymnastique. Parce que les athlètes grecs, ils faisaient la gymnastique tout nu. Il n'y avait pas de slip à l'époque. C'est dans le texte, hein. Alors, dans la lecture en public, on dit qu'il n'avait pas grand-chose sur le dos, quelque chose comme ça. Bon. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès que Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était tout nu, et se jeta dans la mer. Nous, quand on jette à la mer, on a plutôt tendance à enlever quelque chose. Mais Saint-Pierre, il dit, je ne peux pas comme ça aller en tenue d'Adam devant Jésus, ou en tenue de Saint-Pierre, si vous préférez. Bon. Donc, il se met quelque chose autour de la taille. Alors, on ne sait pas s'il a fait, certainement pas le crawl, qui n'existait pas, peut-être la nage indienne. Il a fait un 100 mètres pour aller à la rencontre de Jésus, puisqu'il y avait 200 coudées. Une coudée, c'est 50 centimètres. Donc, il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons. Car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Et qu'est-ce qu'ils voient quand ils sont descendus à terre, Jésus qui est en train de préparer le petit déjeuner de ses apôtres? Ils ont travaillé toute la nuit, ils ont faim. Allez croûter, venez croûter, qui dit. C'est la traduction littérale, ça. Bon. Et comme il sait que le poisson qu'on a pris soi-même est infiniment plus délicieux que les autres, allez me chercher le poisson que vous avez pris. Scipion Pierre, toujours lui, se précipite. Il va chercher les poissons. Il tire à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et malgré leur nombre, le filet ne se déchira pas. Et c'est le fameux petit déjeuner sur le bord du lac. Et après le déjeuner, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jean, c'est-il vrai que tu m'aimes ?»« Bah oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. »« Bon, mais tu seras le pasteur de mes brebis. » Et puis peut-être 10 minutes après, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?»« Bah oui, Seigneur, tu le sais bien. » »« Et tu seras le pasteur. » Et puis peut-être un quart d'heure après, « Simon, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes vraiment ?» Et le texte continue, « Simon fut peiné de ce que Jésus lui demanda pour la troisième fois, m'aimes-tu ?» Ça lui rappelait tellement son triple reniement. Et alors, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus confirme Saint-Pierre dans sa vocation de premier pape, « Ce n'est pas parce que tu m'as renié que je vais te retirer cette mission que je t'ai donnée plus tôt. » Oh, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture où tu le voulais, comme tu l'as fait tout à l'heure pour te mettre à l'eau. Quand tu seras vieux, c'est un autre qui te mettra la ceinture autour de la taille pour te mener là où tu ne voudrais pas. Et Jésus signifiait ainsi le genre de mort par lequel son premier pape allait le glorifier lorsqu'il serait crucifié au Vatican. Et vous savez qu'on a retrouvé, sous la coupole du Vatican, à la demande du pape Pie XII, le cimetière chrétien, qui s'est très vite établi autour de la tombe de Saint-Pierre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au IVe siècle, on a fait des travaux de terrassement énormes pour que la basilique Saint-Pierre coïncide avec la tombe de Saint-Pierre. Certains archéologues pensent qu'on a même retrouvé la tombe de Saint-Pierre. Quand c'est écrit, il y a belle lurette que Saint-Pierre est honoré comme le premier pape martyr. Et le texte ose présenter, voyez, Jésus, Saint-Pierre, tout nu, à la recherche de Jésus sur le bord du lac. Moi, je trouve que si les évangélistes avaient imaginé quelque chose, ils auraient imaginé quelque chose de plus glorieux que cette scène toute simple qui crie de sincérité. Voilà le genre d'étude que je vous souhaite de faire de temps en temps. Un peu d'exégèse peut-être détourne de la foi, mais une étude approfondie du texte nous montre à quel point c'est sérieux. Et pour avoir une foi solide, j'ai également besoin de cela. Il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous avez vu que Jésus pose un petit piège à Saint-Pierre au début de l'interrogatoire. Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Oh, quelques semaines plus tôt, il aurait dit, bien sûr, je t'aime plus que les autres, quand bien même les autres te renieraient, moi, jamais. Il s'est rendu compte qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc, il y a la question que Jésus lui pose. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Oh, c'est plus mon problème, Jésus. Je t'aime, point. Il ne faut pas se comparer aux autres. Et puis, voyez surtout la déclaration d'amour. Ce n'est pas un simple examen que Jésus fait passer à son premier pape. Tu m'aimes ? Bon, tu seras pape. Tu m'aimes ? Tu seras pape. Non. C'est Jésus qui se met à genoux devant chacun d'entre nous, mes chers amis, et qui lui demande en ce dimanche, « Dis-moi que tu m'aimes. » Car ce Jésus qui n'a pas besoin de nous pour être heureux, qui est infiniment heureux dans le sein de la Trinité, il nous aime tellement qu'il voudrait qu'on l'aime. « Dis-moi que tu m'aimes. » Je dis ça spécialement aux hommes qui sont ici et qui s'imaginent trop facilement que Dieu leur demande simplement de les aimer de toute leur force, avec leur ordinateur, avec leurs bras. Non. Jésus veut être aimé par notre cœur. C'est pas parce que tu es un homme plein de virilité, plein de force, plein de dynamisme, que tu n'as pas aussi un cœur. Je voudrais que tu m'aimes de tout cœur, que tu passes du temps dans la prière pour goûter ton amour, mon amour. Dieu nous aime tellement qu'il veut bien recevoir notre amour. Nous y reviendrons tout à l'heure dans l'homélie. Nous allons vivre l'Eucharistie. Pensez dès le début que Dieu, il a du plaisir à vous regarder. Qu'est-ce que ça me fait plaisir ? Vous faites plaisir à Dieu. Si tous les Nantais y croyaient, les églises seraient archi pleines tous les dimanches. Qu'est-ce que tu es allé faire à la messe, mon petit bonhomme ? Ça ne t'a pas paru un peu long ? Ah, si, monsieur le curé, il a oublié les trois qualités dans mon sermon. Court, bref et pas long. Mais alors pourquoi t'es allé à la messe ? Oh, maman, ça fait tellement de plaisir au bon Dieu. Vivons notre messe comme cela. Le plus heureux dans une messe, c'est Dieu. C'est notre Père des cieux qui est heureux de voir ses enfants le chanter. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi ton Dieu t'épousera. Comme un mari tire joie de son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi. J'ai entendu hier qu'il y avait un groupe de prière qui s'appelait Sophonie, que j'aime bien ça. Sophonie, vous lirez dans votre missel au troisième dimanche de l'Avent cette année-ci, le texte de Sophonie, il dansera pour toi. Il dansera pour toi. Dieu, il a du plaisir à nous voir. Comme un jeune homme est tout heureux d'avoir une belle à regarder. Et c'est pour ça que je mets de temps en temps un tulle de mariée à mon antenne de voiture pour me rappeler que je suis en voyage de noces avec le Seigneur. Voilà. Chers amis, je vais essentiellement répondre à des questions qui m'ont été posées hier et dont la réponse se trouve dans l'Évangile, dans les lectures de ce jour. Je vous disais notamment hier que nous ne devions jamais séparer une parole de l'Évangile, de l'ensemble de l'Évangile. Car si vous prenez à la lettre la dernière phrase de cet Évangile, ça donne raison à ce grand homme du IVe siècle qui a semé la pagaille dans l'Église à partir d'une phrase de l'Évangile. Quant au jour et à l'heure du jugement dernier, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Et Arius en a conclu que Jésus n'était pas vraiment égal à son Père puisqu'il n'était même pas capable de connaître l'heure du jugement dernier. C'est très important quand vous lisez l'Évangile, quand vous lisez n'importe quel auteur spirituel, ne détachez pas une parole de l'ensemble, sinon vous êtes au sens étymologique un hérétique, c'est-à-dire que vous choisissez ce qui vous plaît et vous laissez tomber le reste. Parce que par ailleurs, Jésus nous dit, le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Jésus a une conscience très vive d'être le Fils bien-aimé. Je suis la lumière du monde. Je suis le véritable pain du ciel. Je suis la véritable source d'eau vive. Je n'en dis pas plus. Car je voudrais arriver tout de suite à la grande question qui m'a été posée plusieurs fois hier, à savoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire que pour être sauvé, il a fallu la souffrance de Jésus, le sacrifice de Jésus. Ce qui est contesté actuellement par un grand nombre de chrétiens de France et d'ailleurs, qui ne veulent plus voir dans la messe un sacrifice offert au Père. Et c'est à cause de cette contestation qu'il y a tant d'intégristes de par le monde. Quel est le grand reproche des intégristes à l'Église d'aujourd'hui ? Vous ne croyez plus au sacrifice de la messe. La preuve, c'est que vous célébrez la messe sur des tables en bois et non plus des autels de pierre. Pour vous, la messe est un repas et non pas un sacrifice. Il nous est facile de répondre absolument pas. Écoutez tous les textes dont se sert l'Église après le Concile Vatican II. Le mot sacrifice est prononcé explicitement. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Si vous demandez à un juif ou à un musulman pourquoi Dieu lui pardonne ses péchés, la réponse est relativement simple. Parce que Dieu est bon. La carte de visite de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, c'est pas trop mystérieux. Si vous demandez à un musulman pourquoi Dieu lui pardonne ses péchés, même chose. Parce que Dieu est miséricordieux. Le premier adjectif que déclinent les musulmans quand ils récitent leur chapelet, sur lequel ils récitent les 99 beaux noms d'Allah, Dieu est miséricordieux. Si vous demandez à un chrétien convaincu, j'espère que c'est le cas de vous tous, pourquoi Dieu lui pardonne ses péchés, la réponse est beaucoup plus mystérieuse, voire scandaleuse. Parce que Dieu est bon, comme le père de l'enfant prodigue. Mais aussi parce que le Fils a offert à son Père un sacrifice en rémission des péchés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Dieu n'aurait pas pu nous pardonner autrement. Il a besoin du sacrifice de son Fils pour nous pardonner. Mais c'est scandaleux ! C'est païen ! Serait-on revenu à cette religion des Grecs et des Latins qui s'imaginaient que pour apaiser la justice de Dieu, il fallait sacrifier Iphigénie à leur colère ? Eh oui, toute la Bible, tout le Nouveau Testament, et spécialement cette épître aux Hébreux que nous continuons à lire ce dimanche-ci, proclame que la mort de Jésus sur la croix ne fut pas seulement un bel exemple de non-violence. Jésus qui répond à la violence par la douceur. Ce n'est pas seulement un exemple, une icône de la tendresse de Dieu, c'est aussi un sacrifice offert par le Fils à son Père. Alors pourquoi j'y crois ? C'est ce que je vous disais. Uniquement parce que c'est dans la Bible. Que ce soit Saint Paul, Saint Jean, l'Épître aux Hébreux, les Évangiles, tout le Nouveau Testament proclame la mort de Jésus, sacrifice offert au Père en rémission des péchés. Et si vous n'y croyez pas, ne venez plus à la messe. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Alors tâchons d'éclairer ce mystère, de faire un petit peu de théologie comme on faisait hier après-midi. Dans un premier temps, je rappelle que Dieu nous aime inconditionnellement, gratuitement. Je vous l'ai dit, ce matin, lorsque vous étiez encore au pieu, le Seigneur vous aimait déjà. Lorsque vous étiez dans une PPP, position parallèle au plancher, Dieu vous aimait déjà. Il n'a pas besoin de nos sacrifices pour nous aimer. Tous ceux qui ne viennent pas à la messe, Dieu les aime. Il ne peut pas faire autrement. C'est un père plein d'amour pour tous ses enfants. Il n'a pas besoin de nos sacrifices. Il n'a pas besoin de nos rites. Il n'a pas besoin de nos liturgies pour nous aimer. C'est fondamental. Un Père qui nous aime gratuitement, inconditionnellement, et même lorsque nous avons terriblement péché, il continue à nous aimer. C'est l'une des grandes proclamations, n'est-il pas vrai, de toute la Bible. Mais, vous avez commencé à vous habituer à ça, hein? La vérité chrétienne consiste toujours à affirmer deux vérités apparemment contradictoires. Mais, il nous aime tellement qu'on peut lui offrir quelque chose. Alors là, les musulmans rigoleraient s'ils m'entendaient. Parce que pour le Coran, on ne peut rien donner à Allah. On peut recevoir sa baraka, sa bénédiction. Mais les musulmans n'ont pas l'audace de croire, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas dans le Coran. Ils n'ont pas l'audace de croire qu'ils peuvent donner, offrir quelque chose à Dieu. C'est tellement Dieu nous aime, mes chers amis. Il n'est pas paternaliste. Qu'est-ce que c'est que le paternalisme ? C'est quand on aime les enfants sans rien attendre d'eux. Imaginez que votre enfant a fait une grosse bêtise. Il vient vous demander pardon, vous l'embrassez. Allez, on n'en parle plus. Je t'embrasse, on n'en parle plus. Et puis, quelque temps plus tard, il va cueillir dans le jardin quelques fleurs, des fleurs que vous cultivez vous-même, entre parenthèses. Bon. Il en fait un beau bouquet. « Maman, ça c'est pour te demander pardon de la bêtise que j'ai faite tout à l'heure. » Est-ce que vous allez envoyer promener le bouquet de fleurs en disant « j'en ai pas besoin, je t'ai déjà pardonné ». Vous n'avez pas besoin de ce bouquet de fleurs, mais vous le recevez avec joie. Eh bien, voyez, c'est l'une des beautés de la foi chrétienne. Dieu nous aime tellement que sans avoir besoin de nos sacrifices, il veut bien les recevoir pour que nous puissions collaborer à ce salut du monde. Donc vous pouvez affirmer simultanément ou dans deux phrases successives que Dieu n'a pas besoin de nous. On le dit dans une préface, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es. Mais, et c'est toute la liturgie de l'Église, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Vous pouvez donner quelque chose à Dieu, mais si vous interviewiez les gens à la sortie de nos messes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le diraient encore. Qu'est-ce que tu es venu faire à la messe ? Chanter la gloire de Dieu, et pas tant. Écouter la parole de Dieu, formidable. Recevoir l'Eucharistie pour être habité par le Saint-Esprit, merveilleux. Tout ça, ce sont d'excellentes réponses. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une autre réponse à faire. Nous sommes venus offrir quelque chose à Dieu, donner quelque chose à Dieu. On n'est pas toujours les mains vides devant Dieu. T'entends, à d'autres moments, on est les mains pleines. Regarde, Seigneur, ce que nous avons fait de bien aujourd'hui. Et ça donne une toute autre allure à notre vie. Spécialement lorsque nous sommes terriblement accablés par quelque épreuve. Nous croyons, et c'est une spécialité du christianisme, c'est unique dans toute l'histoire des idées et des philosophies et des religions du monde. Nous pouvons offrir quelque chose à Dieu. Il n'y a que les chrétiens qui ont assez fou pour oser croire ça. Donner quelque chose à Dieu. Vous finissez par ne plus être étonné de cette affirmation qui est au cœur de notre foi. Lorsque vous conservez le sourire au milieu d'une épreuve, lorsque vous ne rouspétez pas contre Dieu qui permet une terrible épreuve dans votre vie, le sourire que vous lui offrez, ça sauve le monde. Tous ceux qui sont ici et qui sont terriblement déçus par un enfant ou par plusieurs enfants qui n'ont même pas de reconnaissance envers leurs parents et qui les font terriblement souffrir. Et moi, célibataire, je ne sais pas ce que c'est que de souffrir dans un cœur de père. Je peux le deviner par compassion, mais je ne connais pas votre souffrance, mes chers amis, d'être terriblement humilié par un enfant, par un ami, par un collègue ou par une femme ou un mari qui vous a trahi. C'est terrible. Mais si vous conservez une espèce de sourire intérieur, « Seigneur, je continue à croire que tu m'aimes. »« Oh, tu continues à croire que je t'aime, mon enfant. »« Tu veux bien continuer à croire et m'offrir cette rose de ton sourire au milieu des épines de ta vie. »« Oh, mais c'est formidable. Je reçois tout ça. » Vous donnez quelque chose à Dieu. Vous faites plaisir à Dieu. Oh, mes amis, ne laissez pas dire que la messe n'est pas un sacrifice. Ne laissez pas cette hérésie se propager dans notre monde chrétien. Non, c'est une beauté. La croix est au cœur de la foi chrétienne. Regardez tous ces crucifix qui, en Bretagne ou ailleurs, sont plantés au carrefour de nos routes. Le Christ y est en attitude d'offrande. Il offre son sacrifice au Père en rémission de tous les péchés du monde. Et par lui, avec lui et en lui, nous pouvons offrir tous les sacrifices. La petite Thérèse aimait se présenter devant le Seigneur, les mains vides, elle le dit dans un grand texte que certains connaissent bien, composé en juin 95. Mais comme tous les vrais chrétiens, elle ne se présente pas toujours devant le Seigneur les mains vides. Sinon, elle n'aurait jamais été canonisée, et encore moins déclarée docteur de l'Église. Elle aurait nié tout cet aspect de l'Évangile qu'il faut se présenter dans le ciel avec des lampes pleines d'huile. Tantôt elle se présente les mains vides, tantôt les mains pleines de ses roses. Je dis volontiers que ce sont les roses que les artistes ont mises dans les mains de Thérèse qui empêchent sa spiritualité d'être une spiritualité à l'eau de rose. Parce que si vous supprimez cela, vous supprimez tout cet aspect Jeanne d'Arc de Thérèse, tout cet aspect qu'elle veut faire plaisir à Dieu, lui offrir les roses de ses sacrifices. Et à la fin de sa vie, elle dit, « Comme j'aurais rien refusé au bon Dieu sur la terre, il ne pourra rien me refuser dans le ciel. » Elle n'est pas fille de commerçant pour rien, celle-là. Hein? Elle connaît son évangile. Tantôt, et je termine par là, quand je prépare des jeunes, par exemple, au sacrement de réconciliation, je leur dis, il y a deux gestes que vous ne faites pas suffisamment dans la vie. Mais même si vous êtes acrobate, vous ne pouvez pas les faire en même temps. Vous mettre à genoux, vous mettre debout. Tantôt, on se met à genoux devant le Seigneur. « Seigneur, je suis pas grand-chose, tout petit devant toi. Me voici, Seigneur, je suis pépépé, pauvre pécheur pardonné. Je suis moins que rien. » C'est la moitié de la prière chrétienne, ça. « Tout petit devant toi, me voici, Seigneur. Je ne suis rien, je suis pas grand-chose. Tout solus sanctus, tout solus dominus, tout solus formidable. » Bien. C'est la moitié de la prière, c'est la moitié seulement. Ça vous plairait que vos enfants vous disent à longueur de vie, « Maman, je suis nul. Le moule devait être raté, que devait être cassé. Tu m'as complètement raté. » Non, mon enfant, t'es pas nul. T'es pas nul. T'es un petit chef-d'œuvre. En formation, mais un petit chef-d'œuvre. Donc, à d'autres moments de notre prière, nous nous relevons de toute notre taille. On se tient debout. Le curé d'Ars ne s'agenouillait jamais devant le Saint-Sacrement exposé le dimanche. Il se rappelait que le dimanche, on est debout. On avait même interdit pendant toute une période de l'Église de s'agenouiller le dimanche et pendant le temps pascal, parce qu'on est ressuscité avec le Christ. Et donc c'est une haute attitude de la prière. Regarde Seigneur ce qu'on a fait aujourd'hui cette semaine. C'est quand même pas mal à ce que j'ai fait aujourd'hui. N'ayez pas peur dans son temps de vous faire valoir. L'enfant, il n'est pas toujours en train de dire à son papa qu'il est nul. Maman, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est quand même pas mal, hein. Et donc je dis aux jeunes, quand vous avez raté quelque chose, après un échec scolaire ou une déception sentimentale, vous vous remettez devant le Seigneur. Seigneur, je t'offre quand même ça, c'est pas mal. Hein. Le Seigneur, il aime beaucoup que vous vous teniez debout devant lui. Que vous a envoyé promener vos sentiments de culpabilité morbide ou vos sens complexes d'infériorité. Non mon enfant, t'es pépépé, c'est pas seulement petit, pauvre pécheur pardonné, c'est aussi petit prince, petite princesse. J'ai une voiture immatriculée pendant des années PP59. Et mes amis se demandaient ce que j'avais payé à l'administration pour avoir une immatriculation qui correspondait si bien à ma spiritualité. Voyez ? Parce que tantôt j'entrais dans ma voiture comme pauvre pécheur et puis le lendemain comme petit prince. À genoux, debout, retenez cela. C'est très important que comprendre que Dieu nous aime tellement qu'on peut lui offrir comme des petits princes et des petites princesses ce que nous avons fait de bien pendant la vie. Amen. Le peintre qui a réalisé cette magnifique enluminure, mais une enluminure considérablement agrandie, il a bien écouté mon enseignement ce matin. Merci. Jésus est vivant et ressuscité. Alors je pense que le plus simple, c'est que je parte de questions. J'aurais pu faire une autre conférence, mais comme ça vous ne partirez pas avec quelque chose en travers du gosier. Autant ne pas voir trop de choses, mais bien les approfondir. On dit que la foi est un don de Dieu. Alors pourquoi est-elle donnée aux uns et pas à d'autres. C'est un fameux mystère. Dieu n'aime pas forcément l'égalité. Il fait des riches et des pauvres, des gens malins et des gens moins malins, des gens qui ont une excellente santé et des handicapés, des gens qui ont la chance d'avoir la foi comme moi et qui l'ont eu tranquillement toute leur vie, et puis d'autres qui rament, qui cherchent et qui ne trouvent pas. Pourquoi ? Ben, je pense que dans ce domaine comme dans les autres, oui, attendez, bon. Dans ce domaine comme dans les autres, Dieu veut que ceux qui ont le plus de chance se mettent au service de ceux qui en ont moins, que les riches se mettent au service des pauvres, que les gens en bonne santé conservent leur bonne santé tout en se mettant au service des handicapés, que les gens qui savent davantage se débrouiller se mettent au service des moins malins, et que ceux qui ont la foi aillent la proclamer à travers le monde. Justement, Dieu veut que ça se partage. Si vous aviez été le bon Dieu, sans doute que vous auriez fait les choses autrement. À tous, la même ration, la même portion. Dieu fait un monde inégal, mais solidaire. Autre élément de réponse, au dernier moment, il pourra y avoir une découverte de Dieu qui compensera toutes les incertitudes de la vie. Quand j'ai appris qu'André Malraux, le premier ministre de la culture sous De Gaulle, venait de mourir, je me suis dit que cet homme qui avait cherché la vérité toute sa vie était en train de la découvrir à l'heure de sa mort. Vous savez que l'heure la plus importante de notre vie, c'est l'heure de la mort. Sinon, le « Je vous salue Marie » est ridicule. Pourquoi prions-nous la Sainte Vierge pour maintenant et à l'heure de notre mort? Parce que vraiment, ce sera le moment le plus décisif de notre vie. Quand j'ai vu mon père mourir sous un masque à oxygène dans une clinique, je me suis dit « Papa, tu vas faire bientôt l'acte le plus important de ta vie. » La grâce la plus importante pour la tradition chrétienne, ce n'est pas celle de la conversion, ce n'est pas celle de l'ordination sacerdotale, c'est celle de la persévérance finale. Parce que tous, même si nous mourrons justement avec assistance respiratoire, sous un masque à oxygène, nous aurons à ce moment-là une terrible agonie. C'est un mot inventé par les chrétiens. L'agonie, ce n'est pas le fait d'une respiration haletante au moment de la mort, c'est le fait du combat ultime que nous aurons tous à mener. Parce qu'à ce moment-là, nous nous verrons tout nus, sans nous oripeaux de vanité, devant la majesté et la bonté de Dieu, et j'espère bien que je lui dirai enfin le pardon qu'il attend de moi depuis toujours. Même si je me suis confessé 3 minutes avant de mourir, c'est au moment de la mort que je dirai enfin à Dieu, « Ô mon Dieu, pardon ». Victor Hugo, qui n'a pas écrit que des bêtises, a écrit au bas d'une page d'un de ses livres « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. » Comme c'est beau. Je répète, « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. » C'est-à-dire que mes masques de vanité disparaîtront, mais en même temps, Dieu m'apparaîtra dans une miséricorde que je n'aurais jamais vue jusque-là. Ça ne sera pas encore la vision béatifique, ça ne sera pas le ciel, puisque justement, il peut arriver que je refuse cette ultime lumière. Le moment le plus important de la vie, c'est l'heure de la mort. Le fondateur de l'aide à l'église antitresse, qui a failli mourir il y a quelques années, a dit qu'il s'était vu justement aux portes de la mort et que c'était terrible. Saint François Xavier a fait la même expérience au cours d'un naufrage en Extrême-Orient. Ceux qui risquent de mourir font une expérience différente de celle décrite par le docteur Moody dans « La vie après la vie ».« Mon Dieu, qu'est-ce que je suis pauvre devant toi !» Tous nous aurons à vivre cela. Ce n'est pas dramatique, c'est magnifique. Parce que justement, plus je me sens petit, pauvre devant Dieu, plus je me précipite en lui en disant « Seigneur, sauve-moi bien !» Tout ça pour dire qu'au moment de la mort, ceux qui n'auront jamais eu la chance, la grâce d'avoir la foi, pourront la voir à ce moment-là. Et c'est tellement vrai que c'est un don de Dieu qu'on peut être témoin oculaire d'un miracle et ne pas tomber dans l'acte de foi. Le bel exemple, c'est Alexis Carrel, ce prix Nobel de médecine qui a été le premier à réaliser des greffes dans le monde, greffes de peau, avait été sollicité pour accompagner un pèlerinage de Lourdes, pèlerinage du diocèse de Lyon. On sait que tu n'es pas chrétien, Carrel, mais on ne te demande pas de faire des prières, on te demande simplement de soigner les malades dans le train du pèlerinage. D'accord, j'y vais. Comme ça, je verrai toutes les bêtises qui peuvent exister à Lourdes. Ah, j'y vais. Il y avait justement dans le train une Marie Bailly qui avait une péritonite tuberculose de dernier degré. Ah, celle-là, si elle guérissait, il dit « je me fais moine ». Vous vous doutez de la suite de l'histoire. Bon. Il ne la quitte pas d'une semelle pour qu'on ne dise pas que Carrel l'a laissé crever sous prétexte qu'il était incroyant. Donc il la suit partout. Et alors qu'elle se trouve devant les piscines de Lourdes, à 2h07 de l'après-midi, il s'aperçoit que le ventre de la malade est en train de se dégonfler comme une baudruche sous la couverture du brancard. Il prend son pouls, redevenu complètement normal. Il la ramène à l'hôpital, l'ausculte, complètement guéri. Il va s'affaler sur un banc de la basilique du Rosaire. « Seigneur, j'arrive pas à croire !» Et non seulement il ne se fait pas moine, mais il retourne à Lyon, incroyant, comme il l'avait toujours été. Mais avec son esprit original, il fait une petite conférence à la faculté sur un cas intéressant de guérison dont il a été le témoin oculaire. Quand c'est pas... Alors il voulait devenir grand chirurgien à Lyon, grand patron. Quand on s'aperçoit que non seulement il veut devenir grand chirurgien, mais qu'il se met à raconter des miracles, on lui fait comprendre qu'il n'arrivera à rien à Lyon. Et c'est comme ça qu'il s'exporte en Amérique, où il fera ses célèbres expériences sur la greffe, qui lui vaudront le prix Nobel de médecine en 1913. Eh bien, ce gars-là, qui a été témoin oculaire d'un miracle, qui n'a pas hésité à en témoigner devant une faculté de médecine incroyante, va mettre 40 ans à franchir le pas de la foi. 40 ans. Il avait été tellement obsédé par toutes les objections contre l'Église au cours de ses études de médecine qu'il n'arrivait pas à croire. Et il faisait tous les ans une retraite en Bretagne, s'il vous plaît, en Bretagne, pas n'importe où, au contact d'un homme de Dieu, dont Alexis, etc. Bon. Donc on peut être témoin oculaire d'un miracle et sans résister à l'Esprit Saint, ne pas tomber dans l'acte de foi. Je dis ça parce que ne dites jamais de quelqu'un « Enfin, tu es de mauvaise foi, tu devrais croire, puisque tu... » Oui, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que dans les expertises médicales, on ne demande pas au médecin de faire un acte de foi, mais un simple diagnostic négatif. Dans l'état actuel de nos connaissances, cette guérison est inexplicable. Point. Quelle différence y a-t-il entre dogme et mystère? Tous les mystères ne sont pas des dogmes. Non seulement les mystères provisoires, dont Daniel parlait tout à l'heure, et qui ont été éclaircis, mais il y a des mystères, et j'étais prof de philo, vous l'avez dit, je l'ai rappelé. Bon, moi je crois, en tant que philosophe, que les animaux ont une âme. Ce n'est pas du tout un dogme. L'Église ne vous oblige pas de croire que les animaux ont une âme. Moi, je pense que les chiens, que les chevaux ont une âme mortelle, pas immortelle. Donc, je pense que quand je supprime une puce, je supprime une âme. Hein, je serais prêt à faire tout un cours de philosophie pour essayer de vous prouver l'existence d'une âme chez les animaux. Tandis que le philosophe Descartes dit que ce sont de simples machines. Entre parenthèses, si vous êtes vétérinaire, il n'y a pas 36 façons de soigner les chevaux et les chiens, quelle que soit votre option sur l'âme des animaux. Bon. Mais voyez, le mystère d'une âme chez un animal, c'est un mystère pour l'intelligence. Mais ce n'est pas un dogme. L'Église ne va jamais vous obliger à croire à l'existence. C'est une option libre pour les chrétiens. D'ailleurs, je suis persuadé que la plupart d'entre vous s'en moquent éperdument de savoir si les animaux ont une âme ou non. Hein? Vous achetez de l'insecticide contre les moustiques, ça vous suffit. Bon. De même, l'union entre l'âme et mon corps, moi je fais partie de ceux qui croient... Bon, que Platon dirait la seule façon d'expliquer ma liberté, c'est de dire qu'il y a en moi autre chose que mon corps. Pour commander à mon corps, il doit y avoir un principe que j'appelle âme. Il n'y a aucun homme au monde qui a expliqué comment une âme spirituelle peut être unie à un corps matériel. Comment une âme peut agir sur les neurones du cerveau, ça c'est le comble des difficultés pour un esprit qui réfléchit. Ce n'est pas un dogme. Il y a bien des mystères pour notre esprit qui ne sont pas des dogmes définis par l'Église. Je suis content que certains semblent avoir bien compris l'énoncé du mystère auquel j'ai fait allusion dans l'homélie d'aujourd'hui. Certaines personnes souffrent sur la terre. Comment certaines, on pourrait dire toutes, hein? Comment rejoindre la phrase de saint Paul, j'achève en mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qu'est l'Église. Cette petite formule de l'Épître aux Colossiens a aidé des milliards de chrétiens depuis 20 siècles à christianiser leurs souffrances. Ça ne supprime pas la souffrance, mais ça la fait vivre autrement. Tenez, Malraux, qui n'était pas chrétien, oh, il est vrai que son père s'était suicidé, que l'un de ses grands-pères s'était suicidé, que son autre grand-père avait reçu une hache sur la tête d'une façon accidentelle, que la femme qu'il devait épouser après la guerre a glissé sur un quai de gare et a été écrasée par le train, que Françoise de Villemorin, qu'il aimait tant, est morte subitement, ce qui lui a valu le plus court message de De Gaulle de toute sa carrière, que ses deux enfants, Gauthier et Vincent, ont été tués le même jour dans un accident de voiture. Vous voyez, un gars plutôt poursuivi par le destin. Bien, Malraux vous aurait fait 3 heures de conférence pour exalter l'art gothique en vous disant que c'était le sommet de la civilisation chrétienne. Il n'y croyait pas, mais il avait compris que ce serait formidable de croire au mystère de la rédemption dont j'ai parlé ce matin. Vous avez des non-chrétiens qui disent qu'ils ont de la chance, les chrétiens, d'y croire, parce que ça change tout dans la vie. Les plus belles bouches gothiques, disait-il, sont les cicatrices d'une vie. Quand je vois un visage gothique aux portes de nos cathédrales de France, que j'ai fait ravaler en tant que ministre de la Culture, quand je vois une bouche gothique, c'est quelqu'un qui a souffert, dont le visage est ridé, mais qui sait que sa souffrance n'est pas inutile. C'est unique dans l'histoire du monde. Il n'y a aucune religion au monde qui dit des choses comme ça. Quand vous souffrez, mes chers amis, votre souffrance, vous pouvez l'offrir à Dieu. Vous pouvez offrir quelque chose de votre souffrance à Dieu. Ce n'est pas perdu, c'est unique, c'est unique. C'est évident que ce n'est pas évident. Mais quand on y croit, c'est formidable. Tenez, c'est ce même Malraux qui disait à son ancien aumônier de Maquis, devenu archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg, Pierre Bocquel, il y a une seule capitale au monde que je n'ai pas visitée. J'ai visité toutes les capitales du monde, sauf Jérusalem. Seulement, pour aller à Jérusalem, il faudrait se mettre à genoux à Gethsémani en pensant, ici, ton Dieu a souffert pour toi. Et comme je ne suis pas capable de le faire, je n'irai pas à Jérusalem. Que c'est magnifique! Il avait compris que ce serait formidable de se mettre à genoux à Gethsémani en disant « Dieu lui-même a souffert pour toi. Dieu lui-même a souffert pour toi. Faut-il que Dieu m'aime pour avoir fait des choses pareilles ? Mais comme je n'y crois pas, eh bien je n'irai pas à Jérusalem. » Il y a là un grand mystère. Un tas de chrétiens, de gens ne peuvent admettre un Dieu amour et tout-puissant qui veut la mort de son Fils. Mais que voulez-vous, je suis obligé d'employer là encore un langage apparemment contradictoire. Il faut que ça rentre dans votre tête que les mystères consistent à affirmer deux vérités apparemment contradictoires. En un sens, Dieu ne veut pas la mort de son Fils, de même qu'il ne veut pas notre souffrance. Je taquine de temps en temps des mamans catéchistes en leur disant, vous savez, si vous n'avez que ça à dire à vos enfants, vous savez mes enfants, Dieu n'aime pas la souffrance. Oh ben madame, vous savez, si vous n'avez que ça à nous dire, on ne reviendra pas la fois prochaine, hein, parce que ça c'est pas trop mystérieux justement. Vous enfoncez des portes ouvertes. Les gamins, ils se doutent bien que le bon Dieu n'aime pas la souffrance. Parce que si le bon Dieu est bon, il n'aime pas la souffrance. Venir au catéchisme pour ça, c'est leur raconter le beau temps quoi. Dieu n'aime pas la souffrance, bien sûr que Dieu n'aime pas la souffrance. Et entre parenthèses, les chrétiens ne l'ont jamais dit. Parce qu'on trouve parfois dans certains articles d'aujourd'hui, on aurait enfin découvert au XXe siècle que Dieu n'aimait pas la souffrance. Mais on n'a jamais dit ça. Nos ancêtres n'étaient pas idiots. Donc en un sens, bien sûr que Dieu n'aime pas la souffrance, ne veut pas la souffrance de son Fils. Mais si vous lisez l'Évangile, qu'est-ce que dit Jésus à Gethsémani ? Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus, qui est quand même notre maître à penser, non ? Je crois que c'est notre maître à penser, Jésus. Jésus reconnaît la volonté mystérieuse de son Père à travers la mauvaise volonté des hommes, la volonté des Juifs et de Pilate qui le condamne à mort. C'est ça le mystère chrétien que vous devez annoncer si vous voulez faire de l'évangélisation.